Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, nous avons parlé actu, cinéma avec le film Sur un air de blues et musique avec l'album de Son Chae-young, L'île Fantasy, volume 1. Allez l'écouter. Et pour cette deuxième partie, nous continuons avec la littérature, le talk show et un spectacle nommé Fusée. Je suis toujours avec Violette, Isnel, Ryan, Christophe, Isnel, deuxième fois. Et Violette encore, c'est parti.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art.
C'est dans l'art, sur Radio Campus Paris.
Affronter le pire ensemble, voilà de quoi nous allons parler avec Violette qui nous présente le roman La Manche pour la rubrique littérature.
Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler justement de ce roman formidable qui m'a particulièrement touchée. C'est le premier livre du jeune auteur Max De Paz qui s'intitule La Manche. Donc pour parler un petit peu de ce jeune écrivain, né en 2002, il vit à Paris où il termine ses études en philosophie et en sciences sociales. Et il signe son tout premier roman engagé, publié aux éditions Gallimard, qui traite d'un sujet omniprésent, invisible et surtout indéniablement politique, la mendicité. Donc il raconte l'histoire d'un jeune homme âgé de 20 ans qui se retrouve à la rue, place du Panthéon, après une suite de drames familiaux, une vraie descente aux enfers. Donc ce narrateur, dont on ne connaît pas le nom, oscille entre réminiscences d'un passé douloureux, un frère qui s'appelle Jonas, tombé dans la drogue, une mère désemparée, et d'un autre côté, la fatalité, en fait, des lois de la rue. L'écriture de Max De Paz semble tendue jusqu'à sa rupture, les phrases sont comme autant de coups portés directement au lecteur. La narration singulière mêle, quant à elle, par moments un discours proche du flux de conscience, pour décrire la rue aussi bien dans sa violence extrême que dans sa beauté. Parce que oui, il s'agit bel et bien de beauté, une forme de sublime camouflée, et c'est peut-être ce qui fait toute la puissance de ce livre, ce qui le rend, selon moi, duplice, donc complexe. Cette beauté réside au sein des relations qu'entretiennent les personnages, je pense tout particulièrement au lien qui se noue entre le narrateur et le personnage d'Élise. Donc sans pour autant divulgâcher, je tiens à m'attarder un peu sur ce personnage qui me touche beaucoup et qui est plein d'espoir. Donc Élise, c'est une jeune femme SDF, obligée de se déguiser pour pouvoir dormir dans la rue, loin des loups, écrit Max De Paz. Donc en fait, elle catalyse à elle seule une forme de résistance faite de poésie et d'écriture. Car en fait, au sein de son œuvre, le jeune auteur introduit quelques poèmes écrits par Élise, justement, tels que Le Pichet ou encore un petit pamphlet satirique qui s'appelle L'humour des riches, donc qui permet au narrateur, en fait, quand il les lit, de se sauver, de s'échapper un instant du monde, de cette réalité bien trop crue. Donc finalement, je me demande si ce roman n'est pas aussi avant tout une apologie de la littérature, de ce qu'elle peut et de qui elle sauve. Mais ce qui est tout aussi frappant, c'est que dans cette œuvre, la littérature semble également se méfier d'elle-même. Le narrateur la raille dès qu'elle se range du côté des bourgeois, des riches. Faites attention, lecteur avisé, lorsque vous parcourez les lignes de ce roman, au nombre de fois où reviennent les mots « spectacle »,« hypocrisie »,« rôle ». Ici, c'est la littérature comme apparat social qui est dénoncée. C'est la phrase que jette un homme à la volée « Continuez de lire, mon ami, vous vous en sortirez ». À croire que les riches choisissent même leurs pauvres, écrit l'auteur. Max De Paz voulait rendre compte de cette violence, la violence du passant aveugle, certes, mais aussi et surtout la violence de celui qui donne une pièce. Le jeune écrivain semble alors monter sur les épaules du philosophe et scientifique Henri Laborie, qui explique notamment dans L'éloge de la fuite que les comportements humains, même altruistes ou généreux, sont fondamentalement guidés par des intérêts personnels, comme par exemple la recherche de la valorisation ou l'évitement de la culpabilité. Au final, ce livre nous laisse dans un entre-deux, une position dérangeante et surtout un questionnement relancé sans cesse à qui en vouloir.
Un témoignage poignant, transcrit de manière bouleversante. Merci beaucoup Violette pour cette description. Passons aux réactions déjà à chaud là. Je sens qu'on était tous avec toi. Ryan, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Moi, tu m'as vraiment emporté dans le récit. Ça a l'air bouleversant et ça a l'air aussi de remettre en cause plein de choses. Donc j'ai envie d'être bousculée aussi. Donc j'ai peut-être envie de le lire.
Ouais, bah, franchement, il faut le lire.
Mais je suis curieuse parce que comment c'est écrit ? Est-ce que c'est comme une lettre au monde qui qui porte un discours ? Est-ce que c'est plus descriptif ?
Je pense que c'est une écriture qui est un peu refermée sur elle-même. Il y a un peu un côté de flux de conscience, donc qui est, voilà, il s'adresse à lui-même en fait. C'est D'accord. une lettre pour lui-même, en tout cas de la manière dont je l'ai ressenti, quoi.
D'accord. Isnel, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Ça a l'air, oui, absolument passionnant. Ça m'a rappelé mes cours de littérature. Et oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup donné envie de le lire. Il y avait ce moment effectivement inconfortable à la fin de ta chronique où effectivement on ne sait pas trop quoi penser. C'est-à-dire le moment où tu as dit que c'était très beau, je me suis dit, ah oui, il y a ce côté avec la littérature où on a tendance un peu à rendre beau des choses qui sont absolument horribles et finalement finir un petit peu dans le mouvement un peu l'art pour l'art et oublier vraiment concrètement la situation assez terrible. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée, oui.
Violette,
j'ai une petite question. Est-ce que cet auteur a connu lui-même la situation de la rue ?
Non, en fait, il étudie, je crois, Place du Panthéon dans le 5e, et en fait, il passait souvent devant les mêmes personnes, et au final, je suppose qu'il s'est lié d'amitié avec quelques-uns, okay. en fait.
Déjà, il est né en 2002, je tiens à le souligner. Ouais. C'est quand même assez impressionnant d'écrire un livre à cet âge-là. Et puis, c'est vrai que à Paris, on est très souvent confronté à ces situations d'inconfort, hein, il faut le dire, d'inconfort aussi de ne pas pouvoir donner à tout le monde. Et en fait, c'est vrai que ça questionne aussi sur nous-mêmes, je pense, comment nous, on va se sentir dans ces situations-là. Et donc, je pense que c'est important aussi de mettre ce type de sujet sur la table, en fait, de réussir à en parler, et de le faire bien et de le faire aussi d'une manière poétique et qui peut toucher un peu un public large. Donc non, ça a l'air super.
Anaïs, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, c'est assez original. Un roman avec pour titre Manche. Pour moi, c'est un titre original.
Au moins, c'est explicite et on peut plus ou moins comprendre ce qui nous attend. Isnel, tu disais que la littérature pouvait embellir les choses, mais je crois qu'il y a aussi ce message que la littérature sauve. On voit ce personnage d'Élise qui a écrit ses poèmes et je pense que c'est pour se donner aussi une autre existence dans ce monde. Moi, quand je me suis un peu penchée sur ce livre, ça m'a fait penser plutôt à un film qui s'appelle Écrire pour exister, américain, super connu, où justement c'est toute une classe de lycée de secteur, on va dire, défavorisés, qui se confrontent à l'écriture, à la littérature et qui arrivent à se trouver une personnalité et une place dans la société grâce à ça. Je pense, en tout cas, moi, ça m'a fait directement écho à ça. C'est vrai que ce genre de production, que ce soit en film ou en livre, c'est toujours bouleversant, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour rappel, on vient de parler du roman intitulé La Manche, écrit par Max Depasse, auteur français, 22 ans, comme l'a dit Violette. Non, 2002, donc c'est 23 ans, pardon. Auteur français qui nous apporte cette jolie vision.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Et à présent, Anaïs, tu nous parles d'un spectacle qui met en scène un duo opposé. Ça s'appelle Fusée et c'est lors du Festival Bruit. C'est à toi.
Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux. Et oui, je vous présente le festival, le spectacle Fusée, avec donc au pluriel, qui, à l'occasion du Festival Bruit, sera joué donc je crois que c'est 18 janvier jusqu'au 28 février. Donc 2026, à la Cartouche, au Théâtre de l'Aquarium, au sein de la Cartoucherie, dans le 12e arrondissement de Paris. C'est un spectacle qui est mis en scène par Jeanne Candel, et c'est l'histoire en gros de deux cosmonautes. Il y a l'un qui justement se moque du monde qui s'effondre, et l'autre qui en pleure justement, à l'inverse du deuxième cosmonaute. Et en gros, pour seul contact terrestre qu'ils ont, c'est une personne, donc une femme en visioconférence, qui justement, avec qui ils prennent contact. Et grâce aux nouvelles technologies, donc Jeanne Candel, elle a pu justement mimer les technologies de pointe, faire les musiques, les sons, et puis les artistes dans les théâtres. Donc voilà pour ce spectacle. Donc si vous voulez en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous au Théâtre de l'Aquarium de la Cartoucherie de Paris, dans le 12e arrondissement. Et côté tarif, c'est à partir de 6 euros.
Merci beaucoup Anaïs. Est-ce que tu peux juste nous dire si c'est plutôt drôle ou si c'est plutôt sérieux
Pour ma part, je n'ai jamais vu encore le spectacle, mais D'accord. je vais le voir justement bientôt. Donc en fait, le but, c'est de faire briller un petit peu les étoiles, entre guillemets, dans les yeux des spectateurs.
Pourquoi ça t'a intéressé ce spectacle? Pourquoi t'as voulu nous en parler?
Alors j'ai voulu vous en parler parce que justement, donc, j'ai découvert par une association qui s'appelle l'UNADEV, l'Union Nationale des Aveugles et des Déficients Visuels, justement lors d'une sortie qui avait proposé de voir ce spectacle. Et j'avais déjà été visiter la cartoucherie justement il y a quelques temps, enfin plus précisément le théâtre de l'Aquarium. Et ce spectacle sera donc en audiodescription.
Génial. Merci beaucoup pour nous avoir parlé de ce spectacle. Un duo de cosmonautes qui voit la Terre de loin s'effondrer. Ça vous évoque quoi, Violette?
L'effondrement du cosmos, c'est parlant. Donc franchement, curieuse d'aller voir ça. Et puis au niveau de la mise en scène aussi, ça a l'air intéressant en fait de voir ce que la metteuse en scène a pu faire avec les nouvelles technologies. Ça peut être ça a l'air intéressant.
Puis moi, ce qui m'intrigue, c'est surtout ce duo qui a l'air d'être très opposé et qui réagit de manière très différente à l'effondrement. Je pense que ça peut être drôle. Je pense qu'il va y avoir des moments un peu satiriques dans tout ça. Violette, toi, qu'est-ce que ça t'évoque?
Moi déjà, je connais pas du tout ce théâtre, je n'avais jamais entendu parler, donc là je découvre un nouveau lieu culturel à Paris. Et puis l'effondrement, vaste sujet, comment l'aborder, si elle a réussi à emprunter un ton un peu humoristique, ce que j'espère, pourquoi pas. Et puis c'est chouette qu'ils aient réussi à faire aussi une audiodescription, que ce soit le plus inclusif possible, donc... Non, franchement, ça a l'air très, très chouette et d'aborder des sujets qui, moi, me font un peu peur, j'avoue. Les astronautes, le cosmos, l'univers, mais pourquoi pas?
Mais moi, j'avoue que des sujets aussi durs comme ça, quand ils sont en théâtre, j'ai l'impression qu'on me joue une pièce, donc je me dis, c'est pas la réalité.
Oui.
C'est une histoire qu'on me raconte. Oui. Enfin, j'ai une petite dissociation qui se passe à ce moment-là. Du coup, j'y vais vraiment pour l'entertainment, alors qu'en fait, mais pas du tout. C'est une description de l'actualité.
Mais ton cerveau fonctionne super, c'est top, voilà. Vraiment.
Mais moi, le délice, c'est super. Isnel, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça?
Oui, moi aussi, je découvre un nouvel endroit, je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, malheureusement, mon cerveau arrive tout de suite à faire le parallèle avec la réalité. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc avec le théâtre où généralement, c'est un peu plus exagéré. Donc, ça permet aussi de relativiser en disant « bon, ça ne peut pas être pire, mais il faut éviter de dire ça parce qu'après... »
le pire arrive.
Exactement. Mais oui, et puis je suis super intéressée par la mise en scène aussi. Comment est-ce qu'elle a réussi à utiliser les nouvelles technologies pour... Et le fait aussi d'avoir une personne comme ça en visioconférence, je trouve ça super drôle comme façon de faire. Donc je suis très curieuse, oui.
Ryan?
Je trouve qu'on a tous les éléments des années 2020. On a quelqu'un en Zoom. On a la planète qui s'effondre.
Ça sent le post-Covid et l'impact post-COVID culturel que ça a eu.
Moi aussi, je suis très curieux de voir comment la technologie se mêle au théâtre. En tout cas, ça a l'air assez inquiétant. Ça a l'air assez en lien avec le monde actuel. Mais pourquoi pas? Et puis, j'aime bien découvrir des nouveaux lieux. Donc, quand une pièce ou un spectacle me permet d'aller dans une nouvelle salle que je n'ai jamais vue, c'est toujours un plaisir. Donc,
et puis c'est à prix abordable de ce que tu nous disais, Anaïs. Donc ça, c'est vrai que ça donne aussi envie d'y aller. Merci beaucoup pour vos réactions. On vient de parler du spectacle Fusée qui se joue lors du festival Bruit fin janvier, début février. Ce sera Paris 12 au Théâtre de l'Aquarium. Merci Anaïs de nous avoir parlé de ce spectacle.
Sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Déjà à la dernière partie de notre émission, on termine avec Christophe qui nous a laissé un petit mot et qui nous parle de sa vision du talk show.
Bonjour Léa, oui, j'ai eu envie de vous parler de talk show, ces émissions où, comme leur nom l'indique, l'on talk, on parle donc, et où on fait du show, c'est donc du spectacle, des programmes où on fait du spectacle en parlant, où l'on se divertit en écoutant des gens qui parlent. Bon, si on est puriste, on pourra reprendre les mots inventés par nos amis québécois comme émission causerie, interview variété, voire émission d'info variété. Sachez que même l'Académie française préconise de préférer le terme d'émission de plateau. Vous vous dites que je digresse, hein, là je digresse, non? Eh bien oui et non, parce que j'essaie de faire ce qui est la quintessence du talk show, donner des informations de manière ludique. Quoique la manière ludique avec l'Académie française, j'ai comme un doute. Eh bien il ne vous aura pas échappé que c'était Noël et ses vacances, suivi d'un épisode de neige, un temps à regarder des talk shows en mitouflé dans des couvertures. J'ai notamment regardé des best-of, parce que les gens qui présentent ces émissions sont des gens très très importants, qui ont besoin de beaucoup de vacances après avoir passé des émissions à lire des chroniques écrites avec des assistants stagiaires et fait semblant de rire à des blagues et rire d'autant plus fort que la blague est faite par le chef de l'émission. Alors, je n'accuse pas ces gens de ne pas avoir d'humour, évidemment, hein, parce que ce sont surtout des émissions qui visent un grand public. On est à la télé quand même, et il ne faut choquer personne. Donc, on est forcément dans un humour consensuel. Jaloux, moi ? Mais oui, bien sûr, évidemment. Vous lisez vraiment, on voit comme dans un livre. Enfin bon, revenons à nos émissions de plateau. Si j'ai choisi de vous parler de ces émissions, c'est aussi parce que j'ai remarqué une évolution au fil du temps que les moins de 20 ans n'ont pas connue. Longtemps, le talk show, c'était un animateur et un ou plusieurs invités. Ça parlait de tout, de rien, le but étant plutôt de faire la promotion, si on est méchant, pour le dernier disque, livre ou film de l'invité, ou si on est gentil pour dire qu'on tenait les gens informés de la vie culturelle. Au milieu de cette interview s'intercalaient des chroniques, des pastilles humoristiques réalisées par des journalistes, des humoristes, qui venaient, repartaient, laissant leur place autour de la table les uns après les autres. C'est le modèle mythique, par les uns vos parents, ils connaissent sûrement, du nul par ailleurs de Canal+, des années 90-2000. Il y a eu beaucoup d'émissions sur ce modèle, et puis tout a changé, ai-je remarqué. Mais oui, je ne vais pas verser dans une nostalgie qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout mon genre. Ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, on met tout le monde autour de la table, les chroniqueurs, les invités, l'animateur. Regardez sur France 5, c'est à vous, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine. Regardez Quotidien sur TMC, Diane Barthès entourée de sa bande de chroniqueureuses. Ou encore Cyril Hanouna sur TH14, je ne vais pas non plus donner le nom de la chaîne, qui diffuse tout beau, tout neuf. Son autocopicable de TPMP, c'est dire que le neuf, on le cherche beaucoup. Ce qui m'a frappé donc en regardant cette émission, c'est à quel point c'est devenu une émission auto-référencée. Il y a à peine un invité, les chroniqueurs sont devenus des espèces d'auto-caricatures d'eux-mêmes. Il y a le mec de gauche, forcément pas fut-fut, le vieux beau gênant, la bimbo, le gay pas très malin non plus, la personne plus âgée pleine de bon sens. Comprenez que pleine de bon sens, ça veut dire elle vote bien à droite, hein, et j'en passe. Mais surtout, ils sont tous tellement enquistés dans leur rôle qu'ils jouent à un jeu entre eux, convoquant des histoires passées, rappelant à l'un ce qu'il avait dit un jour, rappelant à un autre ce qu'il n'avait pas dit un jour. C'est un peu comme une sitcom avec des personnages qui parlent de choses, de tout, de rien. En gros, on n'écoute pas vraiment et on perd pas grand-chose. J'ai trouvé ça très étonnant. Et ce genre gagne les autres émissions de plateau que vous pouvez regarder avec ces caricatures vivantes. Ce que l'on voit, ce sont des bandes. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'animateurs qui jouent entre elles. Et les images ne trompent pas. Toutes ces émissions, les gens sont placés en groupe, autour d'une table, et je me suis demandé en les regardant quelle était aujourd'hui dans ces dispositifs la place du téléspectateur. Eh bien, j'ai l'impression que même dans le plus populiste de ces shows d'info-variété, on n'y parle plus vraiment justement à celui qui regarde. On le convoque, on l'invite pour qu'il assiste aux échanges des personnages autour de la table. S'il y a une place pour lui, c'est en dehors, et il sera gentil de rire et d'applaudir quand on le lui demandera. Faut-il y voir une métaphore de la France politique de 2026 ? J'en ai bien peur.
Une vision bien étayée de Christophe. Merci à lui de nous avoir donné cette matière pour débattre. On commençait déjà à en parler avant d'avoir écouté Christophe. Isnel, tu nous disais que le talk show, ça faisait parler. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, tout ça ?
C'est aussi quelque chose que j'avais aussi observé. Il y a un petit peu cette mort de l'ancienne façon dont on faisait les émissions plateau, effectivement. Et j'ai notamment assisté en direct à la mort de l'émission de « Touche pas mon poste », ou vraiment ce que c'était avant et ce que c'est devenu. C'est assez... Ouais, c'était un sacré spectacle. Et oui, donc ça me parle beaucoup, le fait qu'il n'y ait plus vraiment... Oui, il n'y a plus vraiment de lien avec le téléspectateur. C'est quelque chose que je ressens, oui.
Oui, on sent que bon, c'est fait. C'est presque un entre-soi, parfois, j'ai l'impression. Et oui. Je trouve que Christophe l'a bien dit. Le spectateur applaudit, il est gentil, il change de chaîne et il est content, quoi. Violette, qu'est-ce que ça t'inspire, toi ?
Alors moi, je suis révoltée et pas contente. Non, mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit. De un, parce que j'adore C'est à vous, je dois vous l'avouer, c'est mon petit kiff de femme de 50 ans.
Avant l'heure.
J'adore C'est à vous. Et alors, c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a cette espèce de... Chacun est dans son personnage. Mais en fait, moi, ça me fait rire. Et j'aime bien, justement, le fait qu'ils se répondent, qu'on sente qu'ils sont proches. En fait, moi, je ne me sens pas forcément en dehors de ça. Au contraire, j'ai l'impression de regarder un peu mes potes. Pas forcément de participer, mais du coup, si en fait tu regardes souvent le même talk show par exemple, enfin si tu regardes C'est à vous tous les jours, bah je trouve que ça crée une espèce de proximité aussi où t'as l'impression d'être un peu dans leur quotidien. Et moi, ça me déplaît pas tant que ça en fait d'être en dehors. Pourquoi pas ? Enfin, moi je trouve ça marrant quand ils se moquent toujours des mêmes, ça me fait rire. Enfin voilà, donc pas forcément d'accord avec tout.
Ok.
Voilà.
T'as pu aller voir déjà des émissions
Non, je suis jamais allée voir en direct. Mais je voulais aller voir Quotidien un moment et puis j'ai abandonné l'idée parce qu'il n'y avait jamais de place, je trouvais jamais. Du coup, j'ai arrêté de chercher. Mais non, j'aimerais bien.
Ryan ?
C'est vrai que je suis pas d'accord avec tout ce que Christophe dit quand même. Moi aussi j'aime bien les talk shows, j'aime bien C'est à vous et Quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que je remarque, c'est que par rapport aux talk shows des années 90, 2000, etc., c'est vrai que la bande a pris de l'importance. Quand on regarde par exemple un grand talk show qui a beaucoup marché, tout le monde en parle, Thierry Ardisson. C'est vrai qu'il n'y avait pas de bande, il y avait peut-être un ou deux chroniqueurs qui n'étaient pas aussi importants, il n'y avait pas des private jokes. C'est vrai qu'aujourd'hui dans Quotidien, il y a les personnages, il y a Ambre, il y a Julien Belvert, ils ont tous une personnalité, ils sont tous des blagues entre eux, ils se vannent, et dans Touche pas à mon poste aussi il y a des personnages, c'est presque une pièce de théâtre. Ils ont pris une part et moi je l'ai vu ça avec la parodie qu'on a fait Jérôme Commandeur. Je recommande la série Le Monde Magique sur Canal. Je cite la marque, bon c'est pas grave. Et la parodie de C'est à vous, en fait, l'invité n'a pas la parole, les chroniqueurs se parlent entre eux et à la fin ils disent on va faire une photo et c'est l'invité Eddie Mitchell qui prend la photo tellement en fait on s'en fiche, on est là pour la bande. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même des bons invités aujourd'hui. Les stars américaines elles vont dans Quotidien uniquement, quasiment, quand elles vont en France. Et donc Quotidien, ils apportent aussi des choses qu'on n'a pas forcément dans d'autres programmes, par exemple tout ce qui est pop culture. On le voit dans Quotidien, donc je trouve que ça reste des émissions intéressantes. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir des émissions, on a eu des talk shows avec qui permettaient aussi des débats, par exemple On n'est pas couché, il y avait quand même des grands débats, les politiques qui venaient pour une heure, franchement il y avait des gros moments de débats.
Donc, et puis c'est vrai qu'il y avait eu des ouvertures de sujets dans ces émissions-là aussi. Je pense notamment par exemple au sujet LGBT. Je trouve que c'est là où parfois, il y a 10 ans quand même, on commençait un peu à en parler là. Et ensuite, ça a infusé dans d'autres productions, des films, des livres, etc. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas avant, mais je trouve que ça a participé, c'est vrai, à l'ouverture de certains sujets. Et donc ça, on peut aussi que le remercier. Violette, qu'est-ce que...
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est encore une fois ce système d'autoréférence, en fait. Et c'est marrant de voir qu'au final, comme tu disais Isnel, que certaines émissions courent à leur perte parce qu'en fait elles s'autocitent en permanence et en fait c'est la fermeture aussi au monde en fait. Et la dilution de l'information aussi dans un flux continu, et c'est vraiment de l'infotainment aussi, on ne sait plus trop ce qui est de l'information, ce qui est du divertissement. Donc voilà, c'est très controversé, mais on en parle et ça fait débat.
Après, je pense que chaque émission a aussi son credo. Tu te disais, il y a Quotidien qui est pop culture, il y a C'est à vous qui est...
politique, mais enfin en vrai un peu de tout. Hein. Je trouve qu'il varie quand même bizarre les invités et tout, il y a souvent des instants musique, c'est assez varié.
Mais je pense que moi je pense que ça me donnera envie d'aller voir plusieurs types de talk show pour voir comment chacun traite justement l'information, le divertissement. Je pense que chacun a aussi un peu sa tambouille. Merci beaucoup pour vos réponses et merci à Christophe pour avoir ouvert ce débat. C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous, Violette, Ryan, Anaïs, Christophe, Violette encore et Isnel pour vos chroniques et vos réactions. Merci à Eléa, à la technique qui est toujours là avec nous. Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, tout ce dont on a parlé ce soir est mis sur notre Instagram. C'est dans la RCP, tout attaché. L'émission est disponible sur radiocampusparis.org pour nous réécouter. On écrit tout, comme ça, tout ce qu'on a dit, vous pouvez aller le voir. Rendez-vous à la prochaine émission dans 3 semaines pour toujours plus d'art. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.